Festivalier 2024, la 20e édition. En direct de Langogne, c'est sur 48 FM et Radio Zema.
Bonjour à toutes et à tous, troisième plateau aujourd'hui en direct du Festivalier, rejoint que nous sommes ce matin, nous 48 FM, par Radio Zema, représentée par Catherine. Salut Catherine.
Salut Clara.
Radio Zema à nos côtés, donc a priori jusqu'à samedi, tu confirmes,
hein? Oui,
tout à fait. Bon, super. Guillaume également, sans qui mon micro et les autres ne fonctionneraient pas. Salut Guillaume.
Bonjour à tous.
Catherine, Guillaume, moi, a priori, ça fait trois. Mais ils sont trois aussi à avoir fait office de cobayes aujourd'hui, à moins que ce ne soit l'inverse. Il faut dire que c'était plutôt pour nous que c'était une première de faire un atelier radio, le premier d'une série de quatre jusqu'à samedi. Et ce, dans le cadre d'une résidence radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives, le tout financé par la région. Car eux, des interviews déjà faites, nous ont-ils dit d'emblée ce matin en arrivant au plateau, à l'atelier. Fin prêt à nous supplanter, je les laisse donc se présenter. En face de moi, nous avons...
Roch.
Bonjour Roch, merci à toi d'être venu ce matin. À côté de moi...
Mathis, bonjour.
Bonjour Mathis. Et le dernier qui se glisse...
Angie.
Angie. Bonjour Angie, bonjour à tous les trois. Alors c'est depuis 9h ce matin, je l'ai dit, qu'on planche tous ensemble sur cette émission... Et c'est vous trois qui allez l'assurer dans sa globalité. Moi, je ne ferai office que de passe-plat. On précise quand même nos invités, on les présente. Au nombre de ce même chiffre 3, je crois que ça porte bonheur, on recevra dans l'ordre inverse la chanteuse Mimi Tchel, reçue par Angie, juste avant le groupe Boucan, reçu par Mathis, et dès à présent la compagnie L'Encordé. Et c'est toi, Roch, avec Guillaume, qui prenait le micro.
Et oui, bonjour mesdames, Justine, Lucie, Thaïs, c'est ça, je ne me suis pas trompé.
C'est ça, bonjour.
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 Donc vous êtes L'Encordé, une compagnie très agile, d'après ce que nous avons vu, entre technique acrobatique, chorégraphie, jeu d'acteurs et musique, que nous découvrirons ce soir sur la scène de l'école Jeanne d'Arc à 21h30. Et donc je passe la parole à Roch pour notre première question.
Comment avez-vous formé votre groupe? On a vu que vous étiez de toutes les trois des corps Ulysse. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste?
Est-ce que... Allez, je me lance dans une réponse. Comment on a formé notre groupe? Eh bien, on a formé notre groupe autour de cet objet, cet agrès, la corde Ulysse. On s'est rencontrés dans une convention d'aériens, de gens qui font des disciplines aériennes, et notamment de la corde Ulysse. Pour la première fois. Et donc, on s'est vraiment rencontrés autour de cette discipline et autour de cet agrès. Et on a eu l'envie d'en faire plus ensemble et de créer autour de cet objet qui nous animait chacune de manière solitaire et de se rassembler autour de l'objet et d'en mettre plus sur scène aussi, d'avoir aussi plus de cordes, plus de corps et d'en faire un peu une nouvelle discipline quelque part. En collectivisant cet objet et ses corps. Voilà, et du coup, la corde lisse, c'est une corde verticale à laquelle on grimpe, sur laquelle on s'enroule, sur laquelle on fait des figures, et qui est un objet de cirque assez ancien et qui évolue pas mal sur les dernières années dans le cirque contemporain. Le cirque contemporain, c'est beaucoup, comment on dit, emparé de cet agrès. Voilà.
Et pourquoi vous l'avez choisi, vous? Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce... Enfin, voilà, quelle sensation peut-être ça vous procure? Qu'est-ce qui fait que vous aimez cet agrès, cette activité?
Bon, je crois que c'est un peu elle qui nous a choisis, avant tout. On a toutes eu cette attirance déjà pour la hauteur, pour le fait d'évoluer dans l'espace aérien... prendre de la hauteur, trouver ce petit espace, ce petit cocon, ce petit refuge au-dessus du sol, qui, je crois qu'on partage toutes vraiment ce plaisir de la sensation de se créer ce petit nid en l'air. Et dans cette verticalité, on a tout un peu fait aussi d'autres agrès aériens des arts du cirque, mais c'est vraiment la corde qu'on préfère.
J'ai envie de rajouter que la corde, il y a quelque chose aussi de très simple, très, très pur dans l'esthétique que je crois qu'on aime beaucoup. Et elle a aussi quelque chose d'assez vivant, la corde. Elle a son mouvement à elle, à la fois on s'y suspend, mais à la fois elle nous contraint d'une certaine manière. Donc c'est aussi un petit personnage qui vient entrer en jeu dans nos disciplines et dans notre mouvement. Et c'est un peu, c'est assez intéressant cette relation qu'on a aussi avec ces objets qui sont pas juste des blocs de béton par exemple, qui seraient peut-être un peu moins vivants. La corde, elle apporte aussi ce truc-là.
Voilà, toi, Rock.
À partir de quel âge avez-vous commencé à faire du cirque? Est-ce que vous avez des écoles particulières?
Bon, on a toutes plus ou moins une dizaine d'années de pratique de la corde lisse en particulier. Et effectivement, on est toutes les trois passées par des formations professionnelles, au nombre de deux chacune. Donc, c'est des formations aussi sur des parcours qu'on appelle artistiques, qui nous ont amenés à développer tant une technique de cirque, mais aussi tout un travail de recherche et de création autour de la pratique, pour qu'à l'issue de ces années de formation, on puisse aussi être apte, c'est pas vraiment apte le mot, mais prête à proposer un spectacle notamment. Nous, on a décidé de monter aussi une compagnie en sortant de formation. Donc, voilà.
Après, l'âge auquel on a commencé à en faire, il est assez différent pour toutes. Moi, j'ai commencé dans une école loisir, j'avais 10 ans.
Moi, j'ai commencé à 25 ans, tu vois.
Voilà. Pour donner le panel des possibilités.
Alors, j'imagine que dans les arts du cirque, dans vos spectacles, ça nécessite aussi une condition physique importante. Est-ce que vous vous entraînez beaucoup? Combien de fois par semaine? Combien de fois par jour? C'était nos questions ce matin avec Rock. Et on s'est dit aussi que vous deviez sans doute vous échauffer avant de jouer.
Oui, tout ça est très vrai. l'entraînement régulier, c'est un peu fluctuant. Ça dépend des moments de l'année, ça dépend où on se trouve, etc. Et ça dépend de qui aussi. Moi, je dirais que personnellement, je descends rarement en dessous de 15 heures par semaine d'entraînement. Il y a des périodes de ma vie où ça a été beaucoup plus. Par exemple, quand on était à l'école, où c'est des formations qui sont à temps plein. Donc, on passe pas 35 heures par semaine sur une corde lisse, mais on passe assez vite 35 heures par semaine à faire aussi du théâtre, de la danse, de la préparation physique. Voilà. Et puis, de temps en temps, c'est moins. Là, par exemple, comme on est en tournée, alors on a une pratique du corps assez intensive parce qu'on y viendra, il y a l'échauffement, mais il y a aussi les montages, les démontages. Tout ça, ça tient bien en forme aussi. Et puis il y a le spectacle à jouer, donc ça nous maintient pas mal. Et donc oui, avant de jouer, effectivement, il faut qu'on s'échauffe. On compte au moins 45 minutes, une heure de mise dans le corps à chaque fois. Voilà, ça permet de pas se blesser, d'espérer faire durer aussi un peu nos corps dans le temps. Voilà, ça on vous dira à l'avenir si ça marche pas.
C'est en tous les cas un gros investissement pour nous proposer quelque chose sur scène ce soir. Alors justement, parlons de ce spectacle Les Baudrières. On avait une première question sur le titre de ce spectacle.
Les baudrières, ça nous fait penser à l'escalade ou l'acrobranche, mais on n'a pas vu de baudrier et sur vos vidéos et sur vos photos. Alors, les baudrières, qu'est-ce que ça veut dire?
Qui veut se lancer là-dedans? Non, vas-y, je peux y aller. Bravo, très bien vu, effectivement, les baudrières, et on n'a pas de baudrier sur scène. En fait, c'est une... On a envie de jouer un peu dans ce spectacle avec la métaphore de la cordée d'alpiniste, parce que c'est un milieu, c'est une image qui nous raconte un peu ce que c'est que faire confiance aux autres, s'écouter, ascensionner ensemble et comment relationner dans une cordée d'alpiniste comme peut-être dans la vie. Et ce baudrier, pour nous, c'est un élément qui permet de se mettre soi-même dans une zone d'ancrage, dans une zone de confiance, et en même temps de proposer des maillons, des mousquetons, des cordes aux autres, et d'aider éventuellement les autres à grimper, de se faire aider pour grimper, et de créer comme ça des liens entre chacun et chacune. Donc c'est un peu cette image-là qu'on accroche au baudrier.
Et voilà. Puis en évoluant sur nos cordes, on n'a pas de baudrier, mais souvent on se retrouve un peu comme avec un baudrier fait de ces cordes lisses dans lesquelles on s'enroule. Donc dans lesquelles on s'enroule pour se stabiliser, pour après éventuellement en porter une autre. Donc le baudrier, il n'est pas là comme on a l'habitude, comme on le connaît en matériel d'escalade, mais il est sacrément là quand même.
Alors, je vous expliquais un petit peu l'idée de ce spectacle. Et dans le sous-titre qu'on a identifié, c'est « Comment grimper grâce aux autres sans se marcher dessus ?» Donc, vraiment, cette interdépendance entre vous et finalement comme une image de l'interdépendance pour les autres. C'est ça le message du spectacle.
Ouais, complètement. En tout cas, c'est ça qu'on a envie d'évoquer. C'est pas forcément un spectacle très didactique, il n'y a pas des dialogues, on explique, on propose des choses, mais on n'a pas de grandes solutions. Mais en tout cas, c'est cette thématique-là qu'on a envie à laquelle on a envie de mettre un peu de place dans cette création et qu'on a envie de proposer aux uns aux autres.
Vas-y, Rock.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il va y avoir sur la scène ? Comment installez-vous vos cordes, par exemple ?
Alors, Justine, vas-y. Comment on installe nos cordes ? Alors, on a un petit système. Donc, je ne sais pas, vous avez dû voir sur les photos, on a un portique, une structure métallique. C'est un trépied avec en haut une grande coupole ronde sur laquelle on peut suspendre nos 6 cordes. On peut y monter avec une petite échelle et on a un petit système qui se reproduit assez régulièrement. Au sol, Thaïs attache toutes les cordes les unes aux autres pour en faire comme une très grande. Et puis elle monte avec la première, puis elle accroche la première et puis elle tire, elle ravale, elle tire la deuxième, elle l'accroche et ainsi de suite. Il y a toute une petite chaîne d'accrochage bien rodée.
C'est ça. Et après, sur scène, il y a donc surtout ces cordes et il y a aussi un micro, une pédale de loop qui permettent de venir partager soit du texte, soit de la musique, du chant aussi. Voilà, et c'est tout.
Et alors justement, comment vous préparez un nouveau spectacle ou en tous les cas, pour ce spectacle, comment vous choisissez vos mouvements, les textes, comment ça se passe pour créer ce spectacle ?
Et tout d'abord, on s'immerge en général pendant plusieurs fois en format d'une semaine. On se retrouve dans un lieu qui nous accueille. Et puis il se passe plein de choses. On essaye des choses, on se lance des idées, on se lance souvent dans des improvisations. Pour le mouvement, c'est beaucoup passé par de la recherche, improvisation avec les cordes au sol. Donc on a des idées, on les essaye, on se les partage. Et puis quand on trouve quelque chose qui nous plaît, on essaye on parle d'écriture après, d'écriture chorégraphique au sol ou sur les cordes. Et ça processe un peu comme ça. On fait des jets d'idées, des textes qui s'écrivent, qui vont être retravaillés, testés. C'est une petite marmite.
Nous, on n'a pas forcément, en tout cas, eu pour cette création de processus d'écriture en amont, comme par exemple, ça peut être vu et fait plutôt en théâtre, par exemple, où on écrit une pièce et ensuite on la met en scène. Là, ça a été effectivement plus de la recherche, des choses qui vont arriver comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'elle raconte. Puis les agencer, de manière technique, technico-pratique. Et des fois, découvrir plus tard, a posteriori aussi, le sens de ce qui a jailli au début. Et ça, c'est un processus qui est un peu, parfois, qui fait un peu peur, qui est un peu bancal, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter, là ? Et finalement, bien souvent, on se rend compte qu'au bout du compte,
il y a du sens qui vient se trouver dans des choses qui paraissaient complètement intuitives. Et ça, c'est très fascinant à voir se produire aussi.
Bien, Roch, une question aussi sur ce processus créatif par rapport à un autre point.
Le spectacle a une ambiance sonore. Comment celle-ci a été réalisée ?
Alors, il y a deux choses. Dans le spectacle, effectivement, il y a des bandes-sons, il y a des musiques qui sont présentes. Dans celle-ci, il y a des morceaux qu'on a choisis assez rapidement dans la création parce qu'elles nous portaient aussi sur le mouvement et dans l'énergie. Et il y a eu un moment, cette année, donc un petit peu en fin de création, on a choisi de créer deux musiques. Et donc, on a fait appel à ce qu'on appelle un compositeur, qui s'appelle David Amar pour nous, et qui a composé deux morceaux spécialement pour suivre ce qui se passait sur scène, chorégraphiquement aussi. Et il y a un autre aspect, c'est que dans le spectacle, il y a Lucie aussi, qui a un moment de chant, du coup, dont on entend sa voix, et qui amène une autre dimension, un autre univers, une autre dimension sonore aussi.
Alors, peut-être juste pour terminer cette interview, on a vu que vous aviez joué dans plein d'endroits divers et variés. Est-ce qu'il y a un lieu surprenant ou extraordinaire où vous avez joué ce spectacle ou où vous auriez envie de jouer ce spectacle ?
Alors moi, je nourris quand même un petit rêve de jouer ce spectacle le plus haut possible au sommet d'une montagne.
D'accord.
Mais ça peut encore toujours arriver.
Des fois, on se fait surprendre aussi par des lieux. On va jouer dans un quartier au milieu de barres d'immeubles et en fait c'est génial, en fait on voit des gens à leurs fenêtres et c'est vraiment chouette. Moi je garde un petit truc parce que bon, on est en Lozère aussi, mais il y a pas très longtemps on a joué en Aveyron, mais du sommet du portique qu'on atteint à la fin du spectacle, on a vu une vue magnifique et imprenable sur l'Aubrac. Ça c'était un peu magique par exemple aussi. Et toi, t'as un endroit préféré ?
Comme tu disais, il y a le lieu, il y a le paysage, mais il y a l'ambiance. Alors, c'est difficile à dire. On en a fait des belles. On en a fait sur un port au bord de la mer. Ça avait aussi pas mal de liens avec des moments du spectacle. On en a fait, comme tu disais, où on a la vue. On en a fait dans les Alpes, où on avait vraiment aussi des magnifiques vues sur les montagnes. Je me laisse surprendre.
Ouais, de temps en temps, la surprise et aussi avec les gens et il peut se passer des choses comme ça.
Comme ce soir, par exemple. Et ce sera à l'école Jeanne d'Arc de Langogne. Justine, Lucie, Thaïs, merci beaucoup d'être venues jusqu'à nos micros. On vous retrouve donc ce soir, 21h30, à l'école Jeanne d'Arc pour votre spectacle qui s'intitule donc Les Baudrières. Vous, c'est L'Encordé, le nom de la compagnie. Un spectacle tout public à partir de 6 ans, accessible avec le Festive Pass, comme il se fait appeler. Et on poursuit tout de suite, sans plus tarder. Donc, je vous laisse prendre votre envol. Merci à toutes les trois d'être venues jusque-là. Et on poursuit notre émission avec Boucan, qu'on retrouvera dans quelques minutes, juste après l'une de leurs chansons, intitulée « Tout ce qui ne vaut rien ».
Festivalier 2024, la 20e édition. En direct de Langogne, c'est sur 48FM et Radio Zema.
Voilà, nous revoilà donc dans le studio et nous sommes heureux d'accueillir au cœur de Langogne pour le festivalier Mathias Ambert, donc du groupe Boucan. Bonjour à toi Mathias.
Bonjour.
Merci pour ta présence ici, au pied levé, puisque vous avez répondu donc avec Brunoy à l'invitation de dernière minute à la suite du désistement de Marie Amadi pour des raisons de santé. Donc merci. Et donc je laisse la place à Mathis à côté de moi pour cette interview.
Bonjour.
Alors on me présente en tant que chanteur, compositeur, contrebassiste. En quelques mots, depuis quand date votre collaboration au sein de Boucan ?
Au sein de Boucan, ça a démarré en 2017 Puis on a préparé un premier album qui est sorti en 2018. Mais à l'époque, c'était avec un trompettiste qui s'appelait Pierrot Pépin, qui était un mec qui venait plutôt du jazz et en même temps qui avait grandi à Montreuil dans les années 80, donc un peu dans le milieu punk de l'époque. Et on a tourné avec lui, c'était vraiment une belle rencontre à trois, puis il est mort. Et du coup, on s'est retrouvé avec Bruno à se demander comment on faisait, si on trouvait un autre trompettiste pour le remplacer, tout ça. Et finalement, on s'est dit que ça serait pas possible. Tu vois, l'amitié, ça se remplace pas. Et donc on a fait sans lui. On le laisse chanter dans le silence. Voilà, donc à deux aujourd'hui.
Très bien. Toi, tu viens du Conservatoire de Montpellier. Tu as été, entre autres, formé là-bas. Bruno est plutôt un autodidacte. Dans les deux cas, ça demande beaucoup de motivation, de travail, d'énergie. Ces trois choses-là, on les retrouve sur scène. À l'image d'un Hendrix, qu'est-ce que ça peut te parler,
Hendrix? Hendrix, oui, bien sûr. Je pense que ça parle surtout à Bruno, parce qu'il est guitariste et qu'il est de... Bon, allez, je lâche les mots. Il est de 69, donc voilà, Hendrix, c'est un des mecs qui a le plus influencé, je pense, le rock'n'roll des années 70, quoi. Donc lui, il était en plein dedans, donc ouais, Hendrix à mort. Après, maintenant, au sein de Boucan, il joue du bidon, de la guitare bidon. Enfin, c'est un bidon avec quatre cordes qui sonnent un peu des glingos, et puis du banjo. Ça prend un peu ses distances avec Hendrix, mais c'est sûr que fondamentalement, ouais, il est là. Puis moi, j'ai fait le conservatoire, mais j'ai aussi fait du jazz. Et puis pareil, j'écoutais pas mal, j'écoutais du rock gamin. Et dans le jazz, on a Jaco Pastorius qui était un grand fan de Hendrix, qui en a fait. Bon voilà, moi j'ai été influencé aussi par tout ça. C'est un espèce de gros bloody boulga, je sais pas le mot exact, mais.
D'accord. Au sein de Boucan, il y a quand même un héritage qui est revendiqué de Gainsbourg, de Ferré ou d'Higelin. Comment, à travers cet héritage, vous créez-vous votre propre identité ?
Franchement, dans Boucan, Gainsbourg, Ferré, Higelin, c'est vraiment pas nos premiers. Enfin voilà, nous on a d'ailleurs dernièrement, on chante le dernier album qu'on a enregistré à Bristol, pour information, au mois de janvier, avec John Parrish qui est le producteur de PJ Harvey notamment. Donc ce dernier album, les compositions, il y a plus de texte du tout. En tout cas, on chante, mais en une espèce de yaourt, comme on dit, ou en charabia. Donc les mots sont plus aussi essentiels qu'ils l'étaient avant. Après, il reste la chanson « Tout ce qui ne vaut rien », notamment. Je ne sais pas si on l'a entendu ou si ça... Bon, voilà. On va entendre tout à l'heure, où là, pour le coup, le texte est vachement, vachement présent. Personnellement, je ne pourrais pas parler au nom de Bruno, parce que je sais que ce n'est pas vraiment le cas, quoi. La chanson, ce n'est pas vraiment son monde. Moi, mes parents écoutaient Brassens, Barbara, Ferré, Brel, et ma mère, Higelin, Nougaro, enfin voilà, tous les bons.
Tous les bons. Avec votre parcours à chacun, il y a quand même deux individualités qui se rencontrent. Comment elles se complètent au sein de Boucan ?
Ah ouais, bah ça c'est une bonne question. Je sais pas trop ce qui fait l'alchimie entre les gens. En règle générale, tu sais, souvent t'as des gars, tu te dis lui ça va jamais être possible entre nous, et puis au final tu parles 5 minutes et t'as l'impression d'être frère, tu vois, et tout en étant hyper différent. Nous c'est vraiment le cas avec Bruno. On a un peu rien à voir et en même temps tout à voir.
Voilà. L'amitié.
Et l'amitié est devenue essentielle. Mais en fait, depuis le début de Boucan, de toute manière, c'est vraiment une histoire d'amitié, quoi. Avec Pierrot, avec celui qui manque aussi, mais du coup, entre Bruno et moi, c'est devenu encore plus... Enfin, ça a été quand même une épreuve, donc là, oui, il y a une espèce de truc très intime, maintenant. Ouais. Je pense que ça se sent sur scène, ouais.
On pourra le ressentir.
Ah ouais, ouais.
Vous, en fouillant un peu sur votre site, il y a une phrase qui m'a interloqué, c'est... Vous parlez de deux cris en parlant de Boucan. Comment ces deux cris forment justement ce Boucan ?
Je sais pas. En fait, c'est assez difficile. On a un peu un problème avec Boucan pour définir notre musique, justement. C'est un peu, on peut pas nous classer dans le réseau chanson vraiment. Je parle pour les bacs de la FNAC à l'époque où il y avait des bacs à la FNAC. On peut plus rentrer dans le bac chanson. On peut pas rentrer non plus dans le bac vraiment rock. parce qu'à côté de ça, on fait, il y a aussi un peu du jazz, il y a aussi un peu du folk, on peut pas rentrer dans le jazz parce qu'il y a trop de rock et trop de chansons, enfin une espèce de truc, je sais pas, c'est une sorte de rock dada, j'ai envie de dire, un peu avec des influences mongoles ou chamaniques, je sais pas, des trucs. Mais en tout cas, le principe de boucan et le mot boucan. Le porte bien, c'était quand même de...
Ça vient d'où, justement, boucan ?
Boucan, ouais, ça vient, c'est vraiment l'idée de faire ce qu'on veut, quoi. Mmh. C'est vraiment...
Donc c'est une liberté.
C'est la liberté, ouais, voilà. Mmh. Justement, enfin, c'est un peu un... C'est pas évident à vendre comme ça, quand on peut pas te ranger dans une case, hein, c'est un peu le problème de cette société, mais par contre, on revendique de faire précisément ce qu'on veut. Et, quoi. Et quand on compose, là, maintenant, juste Bruno et moi, parce qu'on compose vraiment tout ensemble, les textes, la plupart, quand il y en a, celui qui les écrit, les chante. Mais sinon, c'est quand même très... Enfin, c'est vraiment un binôme, quoi. On se refuse rien. Si on a envie de faire une samba, on fera une samba, quoi, tu vois. Ça nous arrive pas, à vrai dire. Mais je pense à ça pour la prochaine répète. Je dirais, peut-être on pourrait faire une samba, on l'a pas encore fait, tu vois. Par exemple.
Justement, tu parles, tu as évoqué les influences chamaniques. D'où elles viennent de vos voyages ? D'où elles viennent ces influences ?
Ouais, ben, franchement, moi, je me pose bien la question. Mais tu sais, il y a des enfants qui naissent, et puis à 3 ans, ils se mettent à parler une langue, enfin, je sais pas, c'est peut-être une légende, hein, mais une langue de l'autre côté de la planète. On sait pas pourquoi, on se dit que, tu vois, qu'ils sont possédés par je ne sais quoi. Moi, quand je rentre en moi et que j'essaye d'aller en profondeur, effectivement, je me mets à faire des trucs bizarres avec ma voix.
Est-ce que c'est justement ce mélange de tous les bacs, comme tu dis, à la FNAC, tous ces bacs qui vous permettent de partager une musique du monde libre ?
Ben, je sais pas si... Ouais, en tout cas, on a envie de partager une musique du monde libre et un monde libre en règle générale. Ouais. C'est vrai qu'on est pas mal porté sur la liberté.
Cette liberté, comment elle s'illustre, toi, personnellement, sur scène ?
Je pense que... Enfin, ben c'est pareil. On essaye de se débarrasser des injonctions. Par exemple, une chanson, et puis une autre chanson, et puis une autre chanson. On fait un set à la fin. Voilà, t'enchaînes les chansons. Éventuellement, les chansons, t'as un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, un couplet, un pont, un refrain... On essaye de se débarrasser de tout ça, donc tu peux avoir une chanson qui va durer 10 minutes, comme une autre qui va durer 2, et à la limite, ce ne sera pas une chanson, ce sera juste une ambiance. La voix peut rentrer au bout de 3 minutes. Voilà, on essaye de pas rentrer dans les systèmes qui sont déjà trouvés. Puis moi, c'est ce que je trouve intéressant quand même dans... Enfin, au départ, quand j'ai démarré la musique, j'ai eu la prétention d'être un artiste, quoi. Et ben, pour moi, l'art, c'est quand même de créer, quoi. Donc, faut aller chercher un peu plus loin que ce qui se fait partout, à mon humble avis, hein. Après, on n'y arrive pas toujours, mais disons que maintenant que c'est un métier, moi, c'est vrai que j'essaye de m'attacher à la création, avec un grand C qui manque d'humilité.
Il y a une interactivité avec le public, justement.
Bah oui, c'est possible,
hein,
c'est possible.
Pour
bah
que ça
oui,
dure
oui.
10 minutes.
Bah, carrément, mais complètement. Et puis, c'est vrai. Moi, j'ai arrêté l'école en seconde pour faire que de la musique. Donc, j'ai jamais travaillé de ma vie autre chose que la musique. Enfin, il y a une espèce de liberté, je pense, qui m'accompagne un peu. Et puis dans la vie, je suis à peu près pareil que sur scène. Et puis sur scène, je suis chez moi, en fait, au final. Donc je suis chez moi et j'invite les gens à rentrer chez moi, quoi. Et donc, bon, bah, l'idée, c'est quand même de discuter. Hein. Sinon, si c'est que dans un sens.
Donc ce soir, dans le cadre du Festivalier, vous allez faire un jardin musical. Est-ce que c'est une configuration que tu connaissais déjà ?
Ouais, enfin, ça nous est arrivé de jouer dans des jardins. Enfin, plus moi personnellement, notamment avec un berimbère, puisque donc j'ai aussi un solo, un berimbère où je chante pour le coup beaucoup de chansons, beaucoup plus porté sur le texte et un peu plus intime. Donc je me retrouve à faire, je me suis retrouvé à faire un peu toutes formes de concerts, que ce soit même en appartement, tout ça. Mais j'ai eu l'occasion hier de visiter le jardin, qui est, c'est plus qu'un jardin, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est un cadeau pour nous là, avec Boucan, on va se régaler.
Dans justement ce jardin, il y a une proximité avec le public qui est de fait par le lieu. Est-ce qu'elle va faciliter cette transmission du blabla, qui est d'ailleurs le nom de votre dernier EP, sorti en 2023 ?
J'espère. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas trop te répondre. Hein, mais j'espère. J'ai vu le jardin vide, hein, il est magnifique. J'espère que le jardin plein, ça sera tout autant magnifique.
J'en doute pas.
Très bien, merci. Merci d'être passé donc dans le studio radio du Festivalier. Alors pour rappel, bah, écoutez, on donne rendez-vous ce soir aux auditeurs à 19h45 sous la halle, et après direction le jardin où aura lieu donc ce concert. Merci à Guillaume hein, pour la technique. Je n'oublie
c'est
pas.
C'est vraiment pas bon aujourd'hui. Mais...
Et on continue avec la prochaine interview, Michel. Mais avant ça, on écoute, donc si c'est possible, un morceau de ce dernier EP, Blabla 5.
Festivalier 2024, la 20e édition. En direct de Langogne, c'est sur 48FM et Radio Zema.
Allez, place maintenant à notre dernière invitée. Elle se fait appeler Michel, chanteuse qui nous vient de Toulouse, si on a bien révisé avec Angie. C'est d'ailleurs lui qui va assurer toute l'interview. Bonjour à vous quand même, Michel.
Bonjour.
Bonjour, Michel. J'aimerais savoir d'où vient l'idée de chanter. On sait que vous avez sorti un album en 2016, mais j'imagine que vous avez commencé à chanter bien avant.
Oh oui, bien vu. Oui, j'ai commencé à chanter dès qu'on a l'idée de chanter. Donc j'ai chanté adolescente, quoi, comme on dirait. Et puis après, j'ai continué.
Et c'est tout que vous faites? Vous écrivez vos chansons, vos mélodies? Est-ce que c'est pas trop chargé?
Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'essayer d'avoir du recul quand on fait tout. Parce que c'est peut-être plus évident, effectivement, de collaborer quand il s'agit d'écouter, mais moi c'est comme ça que ça sort pour l'instant, c'est en auteur, compositrice et interprète sur scène, et ça a du sens aussi d'être sur scène.
Est-ce que là où vous habitez, ça joue sur votre inspiration? On sait que vous habitez à Toulouse, alors que vous avez grandi à une banlieue proche de Paris.
Alors forcément, je pense que là où on habite, ça inspire, en tout cas pour les artistes comme nous qui avons toujours une vie, parce qu'on a le temps d'avoir une vie. Moi précisément, en fait, j'habite dans les Pyrénées, j'habite en bas de Toulouse, donc j'ai trois un peu lieux géographiques. Il y a Messène-Saint-Denis, qui est quelque chose dont je suis originaire et qui transpire dans mes textes, parce que j'y ai beaucoup d'attaches et j'y vais encore. Toulouse, qui est ma ville d'accueil, et puis après, disons la campagne, la montagne.
Et pourquoi Michel comme pseudonyme?
Ça, c'était un secret, mais bon, tu vas me le faire le dire, je suis sûre. On m'appelle Mimi, je m'appelle Mylène. Et d'où mes deux Y, d'ailleurs. Donc, sur scène, j'en parle un peu. Mais voilà, c'est un pseudonyme qu'on m'a donné, que j'ai gardé.
Ok. Pourquoi le choix de la guitare et pas un autre instrument?
La guitare, c'est un instrument très pratique quand même quand on veut faire quelque chose de brut et de simple. Le guitare-voix, on appelle ça, c'est quelque chose d'historique dans la chanson. Moi, je faisais du piano, mais je trouvais que ça, voilà, j'ai pas encore envie d'être sur scène avec un piano. Je trouve que ça coupe pas mal. L'avantage de la guitare, c'est qu'il y a un côté poignant. On est face au public et c'est joli.
Et est-ce que pour vous, c'est le texte qui passe avant la mélodie?
Non, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup... Mon premier art, c'est d'écrire, et puis la musique, c'est une recherche qui va en même temps, mais qui est peut-être un peu plus longue pour moi, peut-être parce que c'est difficile de tout faire en même temps. Mais non, la musique, c'est... Je fais des chansons, je fais de la musique, et c'est important.
Sur votre site, vous vous présentez vous-même comme produisant de la poésie. Pour vous, la chanson, c'est l'équivalent de la poésie ?
Non, c'est pas un équivalent. Il y a de la poésie qui n'est pas chantée. Il y a des chansons qui, dans une certaine mesure, ne sont pas poétiques, je pense. Après, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle la poésie. Disons que ça reste un débat, on va dire. Voilà.
Et vous vous décriviez comme poète ou chanteuse?
Attends, t'as pas écouté, tu sais pas toi non plus. Moi, je sais pas. Je suis chanteuse. Et là, en tout cas, jusqu'à maintenant, je fais de la chanson poétique. Donc, mais ça peut, de plus en plus, je peux me dire poète quand même. Pourquoi pas? Ou poétesse, je sais pas. Mais de plus en plus.
Mais est-ce que la poésie qui évoque le côté fantastique, un peu rêvé, idéal, est-ce que ça ne s'oppose pas au quotidien banal, terre à terre?
Ah, bah, j'adore cette question, mais parce que, au contraire, moi je crois que je fais de la poésie ordinaire, en tout cas qui vient de l'ordinaire, de notre langage ordinaire, ou de nos langages ordinaires, du quotidien. Et je crois arriver à faire quelque chose qui est quand même poétique, c'est-à-dire que bizarrement, on sort quand même du quotidien.
Il est aussi écrit sur votre site que vos chansons nous amènent à rire.
Oui, bah oui, c'est bien de rire. Ouais.
Mais ça ne nous dit pas quel style vous faites. Est-ce que vous-même, vous vous décriviez à travers un style musical précis?
Non, j'ai en fait guitare-voix, je trouve ça pas mal parce que ça détermine quand même pas mal ce qu'on peut faire. Et il y a des sonorités différentes. On a ce qu'on appelle le folk, qui est pas très très. En France, il n'y a pas tant de folk que ça. Donc ça veut dire des airs qui sont accompagnés avec cette sonorité très particulière. Je pense que je fais du folk, mais du folk moderne.
On peut penser en vous écoutant à Brassens. Est-ce qu'on se trompe totalement ou il fait partie de vos répertoires?
Oui, bah, je pense, il fait forcément partie de notre répertoire, Brassens. Ce qui est qui va avec, effectivement, c'est la densité des textes. Je pense qu'il avait des textes denses. Je pense aussi qu'il n'a pas forcément été particulièrement aimé au début. Donc ça, ça me ressemble aussi parce qu'il y a une affaire avec le fait qu'on nous dit toujours qu'on a des textes trop denses quand on écrit des textes. Voilà. Mais bon, vu ce qui est devenu Brassens, je trouve que je peux être optimiste sur le fait de garder des textes denses.
En tout cas, vous chantez avec un rythme très tranquille, entre chanter et parler.
Oui. Un peu. En même temps, j'ai un gros flow.
Toujours sur votre site, dans votre parcours, on peut lire que votre public vous qualifie de tout terrain. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que je me suis formée en chantant absolument partout, si ce n'est sur des énormes scènes. Mais encore que, ça m'est arrivé de chanter assez vite devant des centaines de gens parce que j'ai chanté dans la rue, j'ai chanté pour des associations, j'ai chanté en manifestation, j'ai chanté sur des scènes culturelles, dans des théâtres, dans des tout petits lieux, chez des gens, voilà. Et c'est vrai que les gens qui me suivent, ils disent que dans tous ces terrains-là, on y trouve quelque chose. Et parfois, la musique, c'est plus préfabriqué que ça, donc c'est fait pour une scène particulière et quand on sort de cette scène, ça marche plus trop.
La vie, le monde... En passant par la politique, c'est des mots qui reviennent pour écrire ou pour décrire vos chansons. En fait, c'est notre quotidien que vous chantez.
Oui. Mon quotidien est peut-être un peu notre avenir. J'essaye de pousser un peu les choses pour qu'on soit plus optimiste qu'on ne l'est. Et...
Voilà. Le militantisme. Pour vous, être artiste, c'est s'engager. Vous parlez de lutte, mais lesquelles ?
Alors, moi, je dirais le chapeau, c'est la justice sociale, je dirais. Que je crois que la chanson, c'est bien qu'elle continue à dénoncer les injustices qui, au XXIe siècle, vont s'aggraver. Et je crois qu'il ne faut pas rester inactif face à ça. Voilà. Après, la musique, ça peut ne pas être directement engagé non plus, hein, c'est pas ça. On peut s'engager de plein de manières. Mais bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de textes qui s'engagent, donc quand même, c'est bien.
Vous avez collaboré avec d'autres artistes et pas que des chanteurs. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquels et surtout pourquoi ?
Moi, j'ai collaboré sur scène. J'ai beaucoup été avec des rappeuses et des rappeurs parce qu'on partageait un peu ce quotidien des scènes, on appelle underground. Je ne sais pas trop si c'est un nom français, c'est du souterrain. Et puis moi, après, je me suis associée à une guide de la région parisienne. Et ça nous amuse parce qu'en fait on va déterrer l'histoire de la chanson et on voit que la chanson raconte énormément de choses et notamment notre histoire partout. Et maintenant que je me balade en France, je me rends compte que en fait la mémoire est beaucoup véhiculée dans les chansons, donc ça nous intéressait de collaborer.
Et est-ce que vous vous sentez pas trop seule sur scène des fois ?
Ah bah alors ça si, hein, forcément. Pas quand on est sur scène, mais après sur le parcours général, oui, un seul en scène, c'est un seul en scène. Ça veut dire qu'on va s'engueuler qu'avec nous-mêmes. Mais parfois, on peut se sentir limité dans nous-mêmes. Et en même temps, c'est la force du seul en scène. C'est qu'à travers nous et à travers cette solitude, il se passe des choses.
On a aussi vu que vous étiez cofondatrice de l'association de mémoire sociale chantée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bah alors c'est ce que je disais, c'est un objet qu'on a inventé, la mémoire sociale chantée. On considère que voilà, la chanson a une histoire, nous avons une histoire, et que ça nous intéresse d'aller déterrer les chansons qui parlent de nous. Voilà. Et on va en chercher, mais on en invente aussi. On a une chanson qui se balade qui s'appelle « La chanson des lavandières ». Et on raconte l'histoire des blanchisseuses, qui en fait est l'histoire, une grosse histoire du travail. Ça nous paraissait intéressant d'en créer une chanson, par exemple.
Allez, on se quitte avec cet avant-goût de votre dernière création, Un Monde, album qui va sortir en 2024. Et est-ce que ce soir, vous allez nous chanter des titres inédits ?
Ah bah alors je vais chanter l'album et je peux même vous dire que je l'ai enfin, donc je vais pouvoir le présenter en avant-première à Langogne. Donc oui, oui.
Et pourquoi le titre Un Monde et pas Le Monde ?
Alors, parce que j'aime ça, l'expression qu'on a tout le temps, c'est ça, c'est tout un monde, chacun son monde. Ce un est assez important, on dit rarement le monde, on dit un monde. Donc j'ai chopé ça et je l'ai pris en titre.
Merci, Mimi Michel.
Bah, merci à vous. D'excellentes questions pour moi.
Donc c'est parti pour le titre Un monde, donc, hein, le pronom indéfini. Merci, Mimi Michel, et bravo, Angie.
Qui meurt, c'est l'humanité qui s'en va. De tant de haine, de tant de peur, elle ne se relèvera pas. Je suis tombée de trahison, savent-ils à quoi ils nous condamnent? Ces lâches, ces funestes garçons, dire qu'on a partagé ces ânes. Jusqu'où un corps peut-il tenir? Jusqu'où un corps peut-il mourir? Jusqu'où un corps peut-il tenir? Jusqu'où un monde peut-il mourir? Je tiens à bout notre avenir. Contre bourreaux et tortionnaires, je suis né révolutionnaire. Je finirai en bonne martyre. Jusqu'où un monde peut-il tenir? Jusqu'où un monde peut-il subir? Jusqu'où un monde peut-il tenir? Jusqu'où un monde peut-il souffrir? J'ai mal, camarade, j'ai peur. Faites qu'on n'abandonne pas sous. Venez-vous, chantez en chœur le courage de ces gens-là. De ces gens-là. De ces gens-là. Jusqu'où un monde. Jusqu'où un monde, jusqu'où le monde, jusqu'où.
C'était Mimi Michel qu'on vient tout juste de recevoir et qu'on va retrouver ce soir 18h15 sous la halle. C'est la fin de cette troisième émission, première émission en mode atelier radio avec nos trois premiers apprentis journalistes qu'on félicite avant tout et qu'on remercie beaucoup beaucoup. Bravo les gars.
Merci à vous.
Merci. Bravo.
Donc on se retrouve demain, toujours avec Catherine, Guillaume et moi-même, pour un second plateau radio avec deux nouveaux apprentis. On ne les connaît pas, en tout cas moi non.
Non, pas encore.
Surprise, on
ça
verra.
Ça sera surprise demain.
On fera cette fois deux ateliers, un le matin pour suivi comme aujourd'hui d'un plateau radio à midi, et l'après-midi un deuxième plateau radio qui démarrera à 16h45, et on en profite parce qu'il reste encore des places à ces ateliers radio, notamment celui du samedi. Alors, j'étais en train de chercher les horaires, j'ai pas eu le temps de les retrouver. Voilà, merci Guillaume, trop fort ce Guillaume.
14h jusqu'à 18h30, 18h45 pour l'émission.
Voilà, et donc pour vous inscrire, c'est sur le site du Festivalier, festivalier48.fr, je dis pas de bêtises. Hein.
C'est ça.
C'est ça. Allez, on se quitte avec Boucan, le titre qui a eu du mal à passer tout à l'heure, et là, ça y est, on a réussi à le sortir. De sa trappe.
Merci Clara.
Les drapeaux brûlés, les barreaux limés, les fenêtres ouvertes, la bière offerte, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Les débordements de la mémoire, les bouteilles pleines de consolation, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Le bruit de tes pas, de ta présence, comme un oiseau rare sur mon épaule. Tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien.
Le fil d'un visage. l'orage d'un cul, la plainte d'une âme, la vie d'un humain, tout ce qui ne vaut rien le vaut bien.
La résidence radiophonique à Langogne de 48FM et Radio Zema. Un projet de l'Assemblée régionale des radios associatives avec le soutien de la région Occitanie.